Voix Nue. Toute cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Éric Hazan. Ce soir, les insurrections ne se passent jamais de la manière dont on les attend.
Bonsoir Éric Hazan.
Bonsoir.
Hier soir, nous parlions principalement de votre carrière médicale et de votre engagement politique. L'engagement politique que vous continuez à porter au sein de votre maison d'édition, La Fabrique. Nous avons déjà parlé de vos débuts dans l'édition, puis un peu des conditions de création de La Fabrique. Alors j'aimerais, pendant les deux soirs qu'il nous reste à passer ensemble, que nous parlions des auteurs et des mots qui ont fait La Fabrique, qui vous ont accompagné et que vous avez, vous aussi bien sûr, accompagné. Et que nous parlions ce soir plus précisément du livre qui a bouleversé, si on peut dire, votre maison d'édition en 2007, « L'insurrection qui vient » du comité Invisible. Un an après sa parution, c'est l'affaire de Tarnac. Julien Coupa et quelques-uns de ses amis sont accusés d'avoir saboté plusieurs lignes ferroviaires et se sont fait arrêter. Julien Coupa est mis en examen pour direction d'une structure à vocation terroriste. À l'époque, les policiers en charge de l'enquête font un lien entre Julien Coupa et le comité Invisible, lien que l'intéressé a toujours nié. Toujours est-il que les ventes de ce livre dans ce contexte explosent et que vous vous retrouvez, bien malgré vous, mêlé à toute cette affaire. Alors quel souvenir est-ce que vous gardez de cette époque, de ce moment précis,
Éric Hazan ? Je crois que c'est pas survenu dans le désert. L'année 2007, toute l'année, il y avait eu des tentatives de création d'ennemis intérieurs par la police et le ministère de l'Intérieur, qui était dirigé à l'époque par Alliot Marie. C'est à ce moment-là qu'est apparue l'expression islamo-gauchiste, qui a eu le succès que l'on connaît. Et on peut remarquer d'ailleurs que c'est ce genre de doublet a toujours une forte connotation policière. C'est les hitléro-trotskistes du temps de Staline ou les judéo-bolcheviques du temps des nazis. Et là, les islamo-gauchistes du temps de Sarkozy. Il y a ce côté policier dans ces façons de parler. Donc il y a eu toute l'année des tentatives, mais à la fin, ils ont dit « bon, allez ». Ils ont dit « ils », c'était Alliot Marie et son conseiller, l'ineffable criminologue qui s'appelle Alain Bauer. Et ils ont dit « bon, allez, on frappe un coup ». Et ils ont choisi de frapper l'équipe, disons, qui était à Tarnac, quoi. Et au mois de novembre 2008, on débarquait à Tarnac le RAID, la télé, enfin tout ce qu'il fallait pour faire un grand coup médiatique. Le problème, c'est que ils savaient bien que leur dossier était faible. Puisqu'ils l'avaient construit de toutes pièces, ils savaient très bien ce qu'il y avait dedans. Et ils savaient que ce n'était pas un bon dossier. Que comme l'affaire était quand même très médiatisée, il fallait un peu étoffer ce dossier. Et ils l'ont étoffé avec un livre, L'insurrection qui vient, qui était paru plus d'un an auparavant, sans attirer la moindre attention. Enfin, il s'était assez bien vendu. On avait dû en vendre 7 ou 8 000, ce qui, entre nos mains à La Fabrique, c'est un bon chiffre.
Hein. D'habitude, c'est plutôt 4 ou 5 000, c'est ça ?
Oh, les habitudes, il n'y a pas d'habitude, mais disons que 9 000, c'est bien. 9 000, c'est des ventes de 9 000 en un peu plus d'un an. Pour nous, c'est les bonnes ventes. Mais enfin, ce livre était paru sans susciter de remous particuliers. Et là, pour étoffer le dossier, pour qu'il y ait quelque chose quand même, le juge d'instruction a décidé de mettre l'intégralité du texte dans le dossier d'instruction, ce qui n'arrive jamais. C'est une première. Il était spécial, ce juge d'instruction. Il est devenu fou, d'ailleurs. Il était fou et il est devenu... La suite a montré qu'il est devenu complètement fou. D'ailleurs, il s'est dessaisi du dossier à un certain moment.
Comment ça, complètement fou ?
Fou au point de se dessaisir du dossier. Les juges d'instruction ne se dessaisissent pas des dossiers. C'est pas du tout une conduite habituelle. Il a fallu vraiment que ça n'aille plus du tout dans sa tête pour qu'il fasse ça. Donc, il s'est dessaisi de ce dossier.
Et donc, le livre a été pris comme une pièce à conviction, c'est ça ?
Une pièce du dossier d'instruction. Oui, si vous voulez, une pièce à conviction. Et c'est en tant qu'éditeur que j'ai été appelé comme témoin dans ce délicieux bunker de la DGSI à Levallois-Perret, où j'ai passé la matinée avec un lieutenant de la police, qui vraiment a été un type important dans le montage de toute pièce de ce dossier. Je crois qu'il a, dans les faux témoignages, je crois qu'il a été un des premiers, un des plus importants faux témoignages sur lequel ce dossier a été établi. C'était ce lieutenant qui m'interrogeait. Donc, très respectueusement, hein. Enfin, respectueusement, très correctement. Pour essayer de me faire dire que l'auteur de l'insurrection qui vient était Julien Coupa. Puisque Julien Coupa était accusé et que ce livre est un livre à charge. Donc il est important de connecter ce livre et Julien Coupa. Naturellement, j'ai rien dit de tel. Donc j'ai un peu déçu ses attentes. Mais enfin, ils m'ont quand même laissé sortir. Voilà comment l'insurrection qui vient a été mêlée à l'affaire Tarnac.
Est-ce que vous avez un souvenir de votre réaction quand les policiers sont arrivés vers vous ?
Ils ne sont pas arrivés, ils m'ont téléphoné en disant « Est-ce que vous voulez venir témoigner ?» Je me suis dit que oui.
Pourquoi ?
Si j'avais dit non, ils m'auraient envoyé les papiers, les trucs, les gendarmes. Enfin, ils m'auraient convoqué. Ils voulaient me faire parler, ils m'auraient fait parler. Ça allait plus vite que je dise oui. Ce n'était pas un signe de bonne volonté ou de consentement à quoi que ce soit de dire oui. Je me suis dit, si je dis non, ils font ce qu'il faut pour que j'y aille quand même.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Est-ce que vous aviez compris ce qu'il se passait ?
Bien sûr, j'ai compris ce qui se passait. Qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit que je ne ferais pas ce qu'ils attendaient que je fasse. Donc, voilà. Oh, j'étais très tranquille. Je n'ai pas eu peur du tout. Je n'avais pas à avoir peur, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question ?
Toutes sortes de questions tournant autour de qu'est-ce que c'est que ce livre et qui l'a écrit.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondriez, hors contexte policier, qu'est-ce que c'est que ce livre, L'insurrection qui vient, pour vous, Éric Hazan ?
C'est un livre. C'est un livre parmi d'autres. C'est un des trois livres écrits par le Comité Invisible. C'est un très bon livre qui continue de marcher très bien. On est assez fiers de ce livre à la Fabrique. On considère que il a marqué une époque et il continue.
En quoi ?
Il continue d'être dans le sac à dos de tous les jeunes gens qui sont le cortège de tête des manifestations qui se sont déroulées au printemps dernier, qui continuent de se dérouler sur un mode un peu différent. Mais dans les sacs à dos, il y a l'insurrection qui vient. Voilà, donc on peut dire que ce livre qui a maintenant plus de 10 ans, il n'a pas une ride.
C'est comme un manuel révolutionnaire, vous diriez ?
Non, c'est pas un manuel. C'est pas un manuel. Le Comité Invisible n'écrit pas de manuel. C'est justement pas un manuel. C'est les flics qui ont essayé d'en faire un manuel insurrectionnel, mais ce n'est absolument pas un manuel. Il n'y a là-dedans aucune recette. Il n'y a aucun truc pour construire quoi que ce soit. En revanche, il y a beaucoup d'éléments qui aident à réfléchir. Donc c'est un manuel, si on veut, mais de réflexion, pas de fabrication.
Il y a eu un avant et un après affaire Tarnac pour ce livre. Vous parliez de 8000, 9000 exemplaires. Après l'affaire Tarnac, c'est monté à des dizaines de milliers d'exemplaires.
À des dizaines de milliers d'exemplaires, oui.
Vous attendiez un tel retentissement ?
Non. Bon, on n'a pas tous les jours un attaché de presse du talent de Madame Agnew-Marie. On n'a pas tous les jours un tel accompagnement. On aimerait bien qu'à chacune de nos publications un peu subversives, on ait un accompagnement de même ampleur, mais bon, donc bon.
Vous avez travaillé tout de même avec Julien Coupa. Vous avez publié à la Fabrique des textes de la revue Tikkun, une revue philosophique qu'il dirigeait, contribution à la guerre
dirigeait,
en cours.
Il dirigeait, il n'y avait pas de directeur.
Non, il ne la dirigeait pas, vous avez raison, il y contribuait. Est-ce que c'est cette collaboration avec Julien Coupa et avec ses compères de cette revue a été rendue possible via l'affaire Tarnac ? Est-ce que c'est cette affaire-là qui vous a fait vous rencontrer ?
Non, on se connaissait de bien avant. J'ai l'impression qu'on se connaissait depuis à peu près l'an 2000, avec, disons, Julien Coupa et ses copains, oui. Ce sont des garçons et des filles avec lesquels, au fil du temps, en discutant, une certaine proximité d'idées s'est créée entre nous. On n'est pas d'accord sur tout, loin de là. Mais enfin, disons que on partage une vision, je pense qu'il ne me démentirait pas en disant qu'on a une vision de ce qu'est aujourd'hui la politique, c'est-à-dire Macron, Mélenchon, élection, tout ça. On a à peu près la même manière de voir ce qu'on appelle la politique comme une espèce de grand tapis volant au-dessus de nos têtes, où se déroule un théâtre d'ombre qui n'a au fond aucun rapport avec nos vies, avec la vôtre, avec la mienne. Tout ce qui se déroule sur ce tapis, finalement, on n'en a rien à faire. En revanche, de ce tapis, il tombe de temps en temps une bombe. Alors, boum, réforme du code du travail, boum, loi du renseignement, boum, la loi antiterroriste qui intègre dans le droit commun les dispositions de l'état d'urgence, ce qui fait qu'on a gagné un état d'urgence permanent. Et finalement, ces bombes qui tombent, il y a le même mot qui est peint sur les bombes, c'est réforme. Ce qu'on appelle réforme, c'est toujours une mise à la casse de quelque chose. Réforme du code du travail, hein. Le code du travail va être mis à la casse. Les réformes, c'est la mise à la casse de choses qui ont été acquises au fil du temps par des luttes ouvrières. Chaque fois que vous entendez réforme, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui va être dézingué dans ce que vos grands-parents se sont battus pour. Avec Julien et d'autres camarades du même acabit, je pense qu'on partage cette façon de considérer ce qu'on appelle aujourd'hui la politique.
À propos de ce que vous considérez, ce qu'est pour vous la politique, quand on se promène sur le site internet de la Fabrique, les livres qu'on peut y trouver sont rangés selon plusieurs catégories, philosophie, littérature, histoire du 19e siècle, histoire du 20e et du 21e siècle. Et puis, il y a la rubrique politique, guerre civile, qui sont ensemble dans la même rubrique. Vous assimilez donc les deux.
Pour se défendre contre les bombes dont j'ai parlé, on est obligé de parler de quelque chose qui ressemble à la guerre civile, oui.
C'est-à-dire ?
Je crois que il y a longtemps que je n'ai plus l'illusion, si je ne l'ai jamais eu, j'en suis pas sûr, qu'on peut améliorer de l'intérieur le système injuste et brutal et inacceptable dans lequel nous sommes plongés. Je crois qu'on ne peut pas l'améliorer. Je crois que tout ce qui est des tentatives pour le retaper, pour mettre des rustines, pour mettre des étais pour pas qu'il s'effondre, on perd son temps. Ce système, il faut l'abattre. Je pense qu'il doit être abattu. Pour l'abattre, eh bien, c'est la guerre civile. Mais quand je dis guerre civile, c'est comme quand je dis révolution, c'est comme quand je dis insurrection. Il faut prendre ces mots comme des mots du 21e siècle et pas du 19e. Je pense que l'idée d'insurrection, d'émeute, de révolution, il ne faut pas les voir comme une répétition de la Commune de Paris. Il faut le faire en fonction de l'époque dans laquelle nous sommes plongés. Il faut donc réfléchir de façon tout à fait autre. Il faut absolument éviter de se retrouver dans une armée face à une armée. Parce que, au fond, la Commune de Paris, les insurgés, les communards, ils auraient parfaitement pu gagner. Il n'y avait pas une telle différence de force. Ils étaient nombreux, au début plus nombreux que les Versaillais, nettement plus nombreux. Et comme eux, ils avaient des canons, s'ils avaient été bien organisés et bien commandés, ils pouvaient gagner. Ils auraient dû gagner. Aujourd'hui, non. Si on se retrouvait face à formidable par le nombre, formidable par l'armement, arsenal policier qui a été construit depuis longtemps maintenant, si on se retrouvait de façon frontale face à eux, on serait mort. C'est même pas la peine d'y aller. Il faut donc utiliser d'autres moyens.
Et donc, l'insurrection aujourd'hui dont vous parlez, elle se traduirait de quelle manière ?
Alors, il y a toujours quelque chose de formidable avec les insurrections, c'est qu'elles ne se produisent jamais de la manière qu'on les attend. C'est toujours quelque chose de différent qui se passe. Donc, comment ça va se passer, comment ça se passera, je ne peux pas vous le dire. Je peux vous dire simplement que ça ne se passera pas comme une répétition de février ou d'octobre 1917. Certainement pas.
Vous parlez d'évaporation du pouvoir.
Je parle, oui, d'évaporation. Parce que de la même manière que l'insurrection, elle, il ne faut pas qu'elle se répète, qu'elle cherche à répéter les insurrections du passé, de la même manière, il faut se débarrasser de l'idée de prise du pouvoir. Prise du pouvoir, c'est vous avez le pouvoir, eh bien, je vous prends. Je vous chasse de votre fauteuil et je m'assieds dedans. Ça, on connaît. On sait comment ça tourne. Le pouvoir, il ne s'agit pas de le prendre. Il s'agit de le faire disparaître. Il s'agit de l'émietter. Il s'agit de le pulvériser, de l'atomiser, qui n'existe plus. Ça, oui. C'est pour ça que l'idée de prise du pouvoir, il faut s'en débarrasser. C'est pas comme ça qu'il faut faire.
Revenons au retentissement de l'insurrection qui vient, le livre du comité invisible, Éric Hazan. Donc on disait que ses ventes s'étaient élevées à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Je crois que j'ai cru lire en tout cas entre 40 et 50 000 exemplaires
vendus. Plus de 50.
C'est votre meilleure vente encore aujourd'hui à la fabrique.
Si on prend le total des exemplaires vendus, en tout cas c'est certainement une des deux ou trois meilleures. Mais par exemple, je me demande si le partage du sensible de Jacques Rancière, qui se vend tous les ans, qu'on réimprime sans arrêt, finalement, en faisant l'addition, on n'arrive pas à des chiffres du même genre.
Qu'est-ce qu'il a changé, ce livre, puisque c'est votre premier grand succès? Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie d'éditeur?
Est-ce qu'il a changé quelque chose dans ma vie d'éditeur? Je dirais non. Non, dans ma vie d'éditeur, dans ma pratique d'éditeur, je ne dirais pas qu'il ait changé quoi que ce soit. On était contents et on a continué. J'étais bien parti avec l'idée qu'à la fabrique, on n'allait pas grandir, qu'on n'allait pas se mettre à devenir une grande équipe, qu'on n'allait pas déménager, recruter. Non, on est resté le nombre qu'on était, dans les locaux qu'on était.
Avec les moyens que vous avez.
Avec les moyens qu'on avait. Comme Jérôme Lindon d'édition de Minuit. Enfin, je ne me compare pas à lui parce que lui était un homme admirable. Mais quand il a eu le Goncourt avec l'amant
de Marguerite
Duras, il en a vendu 1 million. Et ben il est resté rue Bernard Palissy au numéro 6 dans ses locaux où on monte 3 marches, on en descend 2. Enfin des locaux absolument qui sont à la fois charmants et tout à fait inconfortables. Il aurait pu déménager, se mettre dans le marbre et les plantes vertes, mais comme c'était un homme intelligent, il s'est bien gardé de faire ça, et il est resté comme il était.
La particularité de la fabrique, Éric Hazan, c'est que vous et vos collègues, vous suivez de très près les textes que vous publiez, vous les corrigez,
On fait le métier d'éditeur, qui est de s'occuper des textes, oui.
Vous-même, vous pouvez parfois en réécrire des passages?
C'est très variable d'un texte à l'autre. Il y a des auteurs où il n'y a pas une virgule à changer. Les textes arrivent et ils pourraient partir directement à l'imprimerie. Je pense à Rancière en particulier. Bon, il peut y avoir, sur les 150 pages, il peut y avoir 2 queues de cerise où je lui dis, là, je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Bon. Alors, il change tout de suite d'ailleurs. Il ne discute pas, il dit oui, en fait. Et encore, souvent, il n'y a rien du tout. À l'autre bout, il y a des livres que j'ai réécrits de A à Z. Je vous dirai pas lesquels, je vous dirai pas les auteurs, mais il y a des livres que j'ai réécrits de A à Z.
Et du coup, l'insurrection qui vient, qu'est-ce que vous lui avez apporté, vous, à ce texte?
Les livres du Comité Invisible ont réécrit, nous ne réécrivons à la fabrique jamais rien. En revanche, ce qui se passe, c'est que dans la période de maturation de ces textes, entre le moment où le projet surgit et le moment où le manuscrit arrive, il se passe un temps qui peut être assez long, et pendant lequel on discute. Il n'y a pas de réécriture. Il y a des discussions en disant « Oh, ça vraiment, je me demande si c'est le sujet. »
Et c'est ce que vous avez fait avec ce texte, avec le Comité Invisible?
Avec tous les textes du Comité Invisible, il y a une discussion commune, préalable à l'obtention du manuscrit. Et après, quand le manuscrit est là, on n'y touche plus.
Votre première collaboration avec le Comité Invisible, ce sont eux qui vous ont appelé pour vous dire qu'ils avaient ce texte à écrire.
Je ne me souviens plus.
Alors que moi, je m'imaginais que vous aviez reçu un manuscrit.
Non, on n'a pas reçu un manuscrit. Non, il y a eu certainement... Je ne me rappelle plus... Ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 10 ans. 10 ans que tout ça a eu lieu, hein, 2007.
Ce titre, L'insurrection qui vient, il vient d'où ?
D'eux. C'est sorti de la tête des auteurs, chaque fois d'ailleurs, aussi bien celui-là que à nos amis ou que maintenant, les deux autres textes du Comité Invisible que nous avons publiés, maintenant, qui datent de l'été 2017, à chaque fois, c'est eux qui trouvent leur titre.
Justement, dans ce maintenant, personnellement, en tant que lectrice, j'y vois un trépignement, une impatience, comme si depuis les 10 ans qui se sont écoulés depuis la parution de L'insurrection qui vient, et il y avait vraiment quelque chose à faire qui n'a pas été fait.
Ah, pas du tout. Alors c'est curieux, c'est drôle. J'ai vraiment tout à fait le sentiment inverse d'un livre très calme. Plus calme que les deux précédents même. Un peu plus distancié, un peu moins la tête dans le guidon. J'ai l'impression que...
En tout cas, dans ce titre, maintenant, il y a L'insurrection qui vient, il y a 10 ans, à nos amis entre les deux, et puis là, maintenant, après ce « en route » en plus qu'on peut lire dans L'insurrection qui vient déjà à l'époque.
C'est vrai, le titre... Je pense pas que le contenu du livre soit, comment vous avez dit, un peu de trépignant.
Non. De trépignement, oui.
De trépignement, non. Je n'ai pas détecté ça dans ce texte.
Vous dites, en tout cas vous avez dit, Éric Hazan, dans un entretien, que vous voulez faire des livres qui encouragent le passage à l'acte. Est-ce que de ce point de vue, L'insurrection qui vient a rempli ce rôle ?
Le passage à l'acte, si c'est de descendre dans la foule avec un revolver et tirer sur tout le monde, non, non.
C'est pas ce à quoi je pensais en l'occurrence.
Des livres subversifs, des livres qui incitent à travailler, à désinguer le système dans lequel nous sommes plongés et à dissiper le malheur ambiant, oui, à coup sûr. C'est pour ça d'ailleurs que dans les critères du choix, parce que nous avons beaucoup de propositions qu'on nous fait. Nous sommes trop petits pour tout accepter. Nous sommes obligés de faire des choix dans les livres que nous publions. Nous donnons la préférence aux livres qui ont un côté d'incitation à regarder en avant. Et un point négatif serait pour un projet de livre d'être un énième description de l'état des lieux. Par exemple, je vais vous donner un exemple très clair. Nous ne prenons plus à la Fabrique de livres qui racontent les souffrances du peuple palestinien. Parce qu'on l'a fait et refait. On en a édité plus qu'aucun autre éditeur en France et peut-être au monde. Depuis Amir Arras, en 2001, je crois, Boire la mer à Gaza, on a publié toute une série de livres sur les souffrances palestiniennes. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ne veulent pas savoir... Tant pis pour eux. Et ceux qui veulent savoir, ils savent. Franchement, publier un livre de plus sur ce sujet, c'est pas la peine. En revanche, les livres que nous publions sont des livres... Alors, le mot programmatique est peut-être un peu excessif. Hein, ce serait vraiment avoir une espèce de vision un peu hyperbolique du rôle de l'éditeur. Non, mais quand nous avons publié un livre qui s'appelle « Un état commun entre le Jourdain et la mer », c'est un livre... qui a eu un énorme retentissement, pas dans la presse, hein, je vous rassure tout de suite, il n'y a eu aucun article, comme d'habitude, jamais. Mais le livre a eu un énorme retentissement. Les auteurs dont je faisais partie, mais en fait, j'ai fait partie de ce livre comme porte-plume des Yael Sivan, puisque Yael Sivan, il ne sait pas écrire le français. Il parle parfaitement le français, mais il ne peut pas l'écrire. Alors, au fond, c'est un livre que j'ai pris sous sa dictée, donc j'apparais sur la couverture, parce qu'il y a tenu, mais je pourrais ne pas y être. Donc ce livre... C'est un livre programmatique. Quand on a publié un livre qui s'appelle BDS, Boycott des investissements sanctions, c'est un livre programmatique. Quand nous avons publié un livre sur le boycott intellectuel, un livre récent de l'année 2017, sur la nécessité, sur l'intérêt, sur la valeur du boycott intellectuel de la production israélienne, c'est un livre programmatique encore. Voilà. Nous ne publions plus d'état des lieux, nous publions des livres programmatiques. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse en dire autant de tous les domaines, que tous les livres que nous publions soient des livres programmatiques.
Avant de terminer cet entretien, je voulais juste revenir sur ce que ça a changé, l'insurrection qui vient dans votre maison d'édition. Vous ne me disiez rien, ça vous a quand même fait connaître d'un plus grand nombre encore de lecteurs, ce texte, l'insurrection qui vient.
Sans doute, sans doute. Ça nous a fait connaître, à coup sûr, les 50 000 acheteurs, ils ont appris à connaître la fabrique, tous ne la connaissaient pas. Dire que ça a marqué une montée soudaine des ventes du reste des livres de la fabrique, j'en suis pas convaincu. Non, peut-être, enfin je sais pas, pas de façon spectaculaire en tout cas.
Vous aussi, votre nom, votre personne, vous avez été plus connu, plus exposé en tout cas.
Je crois pas que mon passage d'une matinée à la DGSI ait eu tellement de retentissement. Là encore...
Pas tellement cela, mais ce texte en l'occurrence. Que là encore, pas beaucoup d'éditeurs à votre place n'auraient publié sans doute.
Je ne sais pas. Moi, en ce qui me concerne, à titre personnel, non, ça n'a rien changé du tout. Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Il y a quelques éditeurs qui ne sont pas du tout du même bord comme moi, qui m'ont envoyé un petit mot ou enfin un petit message après ce passage à la DGSI pour me dire qu'ils étaient indignés, qu'on est dénié, qu'on est osé convoquer un éditeur, un réflexe de caste. Non, mais gentil, gentil. Bon, ça m'a fait plaisir quand même. Des gens qui n'étaient pas du tout du même bord que moi.
Pourquoi ils se sont adressés à vous, le comité invisible? Est-ce qu'ils vous l'ont dit?
Pourquoi ils nous ont proposé ce...
Pourquoi ils se sont tournés vers vous pour publier ce premier texte, puis les autres après?
Le tour est vite fait. Surtout il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient comme choix? Ils n'allaient pas aller chez Gallimard, ni au Seuil. Donc, toute l'édition industrielle s'était exclue. Alors, il restait... à l'époque, il y a 10 ans, il y avait le choix entre Agone, dont on a parlé, je crois, hier ou avant-hier, cette maison d'édition marseillaise qui a été fondée en même temps que la fabrique, Amsterdam... Et puis nous, hein. Donc voilà, ils ont dû regarder les trois et puis dire, c'est celui-là, voilà.
Merci Eric Gazan.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Eric Gazan. À voix nue, réalisation Olivier Guérin, prise de son François Rivalan, coordination Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.